Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable avec nos invités. Grégory Cirque, bonsoir. Bruno Salvet.
Bonsoir.
Olivier Dognon.
Eh bien, bonsoir.
Et Éric Figuère.
Et bonsoir à tous.
Et bonsoir à vous, messieurs. Allez, on va parler dans cette émission de rugby, de football, de Formule 1, de Jeux paralympiques, mais aussi de golf. On va commencer par le rugby, puisque l'équipe de France a remporté le tournoi Destination. Que ce fut dur, Bruno Salvet, pour ce dernier match face aux Anglais.
Oui, hein, ça a été compliqué, très compliqué. On en avait parlé déjà la semaine dernière, que les Anglais, c'était vraiment nos meilleurs ennemis. Mmh. Et on s'en est rendu compte sur le terrain, face à vraiment une équipe anglaise qui a produit énormément de jeux et qui a mis en difficulté cette équipe de France. Donc c'est vrai que c'était un match agréable. Tous les matchs de l'après-midi, quoi, du soir pour nous, ont été très agréables, hein, parce qu'il y a eu un Irlande-Écosse aussi qui a tenu toutes ses promesses. Mm-hmm. Et un Pays de Galles-Italie aussi. Donc c'est vrai que pour revenir à la performance de l'équipe de France, ça a été très 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 compliqué face à des Anglais très entreprenants qui ont vraiment envoyé du jeu, comme on dit, par rapport aux prestations précédentes. Mm-hmm. en mettant énormément de vitesse et surtout en arrivant à perforer à nombreuses reprises cette défense française qui est en grande difficulté. Mm-hmm. Oui.
Alors 48-46, c'est le score final. L'équipe de France gagne le tournoi des Six Nations avec une pénalité de Ramos à la dernière seconde. Mais bon, contre les Écosses, ça a été compliqué. Contre les Anglais, ça a été compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on a un peu molli, j'allais dire, dans cette fin de tournoi?
Il y a un gros problème au niveau de la défense, hein, puisque si on prend les deux derniers matchs, c'est 14 essais encaissés. Donc sur les deux derniers matchs, 14 essais encaissés par l'équipe de France, soit 96 points, ce qui est énorme. Donc l'équipe de France n'a jamais encaissé autant de points sur deux rencontres. Donc c'est vrai qu'il y a un gros souci au niveau du milieu du terrain, notamment au niveau des centres. Et puis surtout, on en avait parlé aussi la semaine dernière, gros souci en conquête, parce qu'on a des problèmes en mêlée, on n'arrive pas à bousculer nos adversaires en mêlée, même si c'est nous qui nous faisons bousculer, voire même pénaliser. Et en touche, pareil, on n'arrive pas à contrer les alignements. Donc c'est vrai que à partir du moment où sur toutes les phases statiques, les équipes adverses ont la possession du ballon, ça leur donne des bons lancements d'attaque, et donc on est obligé de défendre. Et c'est vrai que quand une équipe défend, à un moment donné, elle commet des fautes parce qu'elle est tout le temps en train de plaquer, de se replacer et de reculer. Et on l'a bien vu face aux Anglais, hein, qui ont mis énormément de vitesse et qui ont chaque fois réussi à franchir la ligne davantage et donc à se mettre tous dans le sens de la main. Donc un gros souci au niveau de cette équipe. Après, il faut quand même pas dévaloriser cette victoire. Ça reste quand même une victoire dans le tournoi des destinations.
On
le prend, bien sûr, parce que c'est quand même assez rare de remporter le tournoi des destinations. Et puis surtout un huitième titre pour les Bleus qui dépasse les Anglais. Hein, depuis 2000, donc c'était la création du Six Nations. Donc il y avait une seule équipe qui était à cette victoire, c'était l'Angleterre. Et donc la France a dépassé ce record en ajoutant un huitième titre. Bon, tout le monde voulait le grand chelem, donc on va se contenter déjà d'une belle victoire. Et merci Thomas Ramos pour ce sang-froid sur la dernière pénalité qui n'était pas évidente. Mais il a botté dans ce ballon avec une telle facilité que ça en est déconcertant, complètement.
Allez, on va faire un petit tour de table. On va commencer par Monsieur Stade Toulousain, Grégory, sur cette victoire de l'équipe de France. On ira du côté du SAP après.
Il y en avait un paquet sur le terrain, même si on retiendra surtout les joueurs de l'UBB qui ont brillé dans le tournoi. Je rejoins complètement Bruno. Hein. Moi, on va pas se le cacher, on fait le même score avec le même match en finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Je signe maintenant dès demain. Mais si on va plus dans le fond, je serai l'entraîneur de la défense de l'équipe de France. Je me gratterai un peu la tête à l'idée d'affronter les nations de l'hémisphère sud quand même. Hein, parce que c'est quand même assez compliqué. On a l'impression que les équipes, du moins, qu'elles font une action un peu construite, elle passe comme dans du beurre dans la défense, et en général ça va laisser, vu qu'on est pris de court et que nous aussi on essaye beaucoup de se projeter vers l'avant, ce qui fait que la défense est un peu laissée en solitaire, quoi. Donc Il y a cet aspect-là qui a travaillé sur le... S'il y a un enseignement à tirer du tournoi, ce serait celui-là, à mon sens.
Éric Figuère, le seul homme qui pense que le nouveau maillot de l'équipe de France a été fait parce qu'on a copié celui de Perpignan.
C'était un beau maillot, effectivement, qui ressemble beaucoup à celui de l'USAP.
Il est en rupture de stock,
oui, d'ailleurs. C'est normal, c'est un très beau maillot.
Mais bon, je voulais l'acheter, c'est mort.
Toujours est-il qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, les positifs le verront à moitié plein. Moi, j'aime à penser que je suis quelqu'un de positif, mais je regarde aussi les choses en face. Et en face, bah, il faut regarder le verre plutôt à moitié vide, si tant est que, comme on le répète semaine après semaine, l'objectif, c'est 2027, la Coupe du Monde. Et alors, évidemment, que la vérité de ce tournoi destination ne sera pas la vérité de la Coupe du Monde dans un an et demi. Mais il est certain qu'on ne gagnera pas la Coupe du Monde en encaissant 96 points sur deux matchs contre l'Écosse et l'Angleterre. Ça, c'est une certitude. Alors, évidemment, qu'on ne les encaissera probablement pas de la même manière, en tous les cas, pas autant dans un an et demi, mais en fait, c'est catastrophique. Alors, on a de la chance d'avoir un réservoir de joueurs fabuleux, on a de la chance d'avoir le meilleur buteur probablement mondial, on a le meilleur ailier du monde avec Louis Bielbarré, bien évidemment. On a le meilleur joueur du monde, même s'il n'a pas tout à fait récupéré son niveau, c'est Antoine Dupont. Et que derrière, on a des joueurs de top niveau mondial partout. Et en plus, on a des remplaçants de très très haut niveau. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Mais non, en fait, c'est catastrophique. On ne peut pas se permettre de prendre 50 points en Écosse et 46 points contre l'Angleterre. C'est juste pas possible. Et puis, ça fait quand même mal. Alors, la pénalité dans la dernière minute, évidemment que c'est fabuleux. On gagne le tournoi. Mais moi, je pense que si on se contente de... Alors, c'est évidemment exagéré en disant ça. Si on se contente de gagner le tournoi, c'est comme si c'était facile de gagner le tournoi avec 4 victoires et une défaite. Bon, évidemment. Mais on n'arrivera à rien comme ça. Alors, je pense que Fabien Galthié et son staff le savent mieux que moi et qu'ils feront le nécessaire pour éviter que ça se reproduise. Mais ça fait quand même un peu mal partout.
Olivier.
Alors, je vais rebondir là-dessus parce que est-ce que vous avez vu la tête de Fabien Galthié à la fin du match ? Il était joyeux ou pas ? Il était déjà, à mon avis, en train de réfléchir, parce que bon, il y a qu'on gagne ou qu'on perde. Après, il y a un bon débriefing qui va se faire avec les joueurs. Il était déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer. Je crois que c'est au mois de juillet qu'il a tourné dans l'hémisphère sud, dans le coin.
Absolument.
Avec la Nouvelle-Zélande, je crois, en premier match. Oui, une semaine après la finale du championnat de France.
Oui, donc ça veut dire que les
on ira avec l'équipe.
Je pense qu'il a déjà la tête tournée. C'est ce que dit. Je me rappelle David Douillet qui expliquait que dès qu'il avait été champion olympique, une fois qu'il est descendu du podium, il était déjà en train de penser
au championnat du monde.
Championnat du monde qu'elle est sûre, etc. Bon, c'est un peu le rôle de l'entraîneur, c'est de rester les pieds sur terre, comme tu le disais. Et puis je crois qu'en novembre, après, il y a l'Afrique du Sud, l'Argentine, etc.
Oui, la tournée de
Donc voilà, je pense qu'il y a déjà, Galthié avait déjà la tête tournée vers cet horizon. Après, en effet, Bielbarré, Dupont, Ramos, c'est trois joueurs exceptionnels. Et je crois que Ramos, il a passé toutes ses transformations, les pénalités. En face, il a dû en rater deux ou trois. Et ce qui fait que deux points d'écart à l'arrivée, ça peut se jouer là-dessus. Bon, la pénalité à la fin, en effet, tant mieux pour nous. mais après, c'est ça fait partie d'un match. Et après, je voulais rajouter un grand chelem, c'est quand même 5 victoires d'affilée dans n'importe quel sport, même si on domine.
Et c'est
5 victoires d'affilée, que ça soit dans un championnat de France de rugby, de foot ou autre, c'est pas tous les jours que ça se passe. Déjà on gagne, c'est bien, maintenant...
La réalité, c'est qu'on regardera toujours, jusqu'à ce que la France ait gagné la Coupe du Monde, on regardera toujours les résultats de l'équipe de France du rugby sous le prisme de la Coupe du Monde. Donc tant qu'on ne l'a pas gagné, en fait, on peut toujours... Alors, évidemment qu'on va me critiquer en disant ça, mais gagner le tournoi destination, c'est évidemment une très grosse performance. On ne va pas dire le contraire. Mais en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la France va réussir à gagner la Coupe du Monde. C'est ça qui nous intéresse. Et comment est-ce qu'on va faire, et comment est-ce qu'ils vont faire pour amener l'équipe jusqu'au plus haut niveau en Australie en 2027. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte. Alors évidemment, il y a des points d'étape, il y a des échéances, comme pour tous les sports, comme pour tous les sportifs, mais l'attente, voilà, l'objectif, c'est celui-là. Ce n'est pas de gagner tournoi destination. Tournoi destination, c'est une étape. C'est formidable de l'avoir gagné, avec en plus du suspense, etc. C'est fabuleux. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'Australie 2027. Un point, c'est tout.
Mmh. Le titre de l'équipe, c'est « Les Bleus ont-ils une tête de champion du monde ?»
Mmh. Là, quand on dit bah, «
T'as
une
bonne tête de champion du monde voilà. !» Donc j'espère que...
Champion d'Europe, c'est déjà bien.
La vraie. Voilà.
Bruno Salvé, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de ce tournoi, au-delà de la victoire de l'équipe de France, etc. Moi, quand je regarde le classement, je vois cette quatrième place de l'Italie avec 9 points devant l'Angleterre, devant le Pays de Galles. C'est pas finalement le truc marquant de ce tournoi.
Oui, c'est le niveau, je pense, des équipes de l'hémisphère nord qui évolue de plus en plus. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant les confrontations entre les équipes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, parce que je pense que là il y a un gap qui est en train de se rétrécir, notamment avec les Irlandais qui rivalisaient avec les All Blacks et les Sud-Africains. Et là on se rend compte que même les Écossais maintenant arrivent à produire énormément de jeux, les Italiens aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant au niveau du tournoi destination, ça donne un renouveau à cette compétition qui devient de plus en plus intéressante. Mmh. Après, en dehors pour rebondir un peu ce que disaient les collègues, c'est vrai qu'on a de très bonnes individualités, mais là je pense qu'il y a une remise en cause au niveau du staff qu'il faut qu'elle soit faite, parce que quand même on a beau avoir un certain nombre de très bons joueurs sur leur poste et de très belles individualités, là il y a quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est quand on voit le nombre de points encaissés en deux matchs, c'est que voilà, donc il y a soit le discours ne passe pas ou ne passe plus, ou il y a une réorganisation à revoir au niveau de cette équipe. Mais on a des carences, par contre, on a des carences à certains postes, notamment, on en avait parlé déjà la semaine dernière, au niveau des piliers de la première ligne. On a très peu de piliers. C'est vrai que dans tous les clubs de top 14, la plupart des piliers viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, d'Argentine. Donc peu de place pour les jeunes joueurs. Et si on veut rivaliser, hein, je l'avais déjà dit la semaine dernière, no scrum, no win, si on n'a pas de mêlée, on ne peut pas gagner. Donc. Et là, on s'en est bien rendu compte, parce qu'on a été sérieusement été en difficulté sur la plupart des matchs de ce tournoi. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de la mêlée et de la conquête aussi, la touche, même si on a quand même gagné les ballons, on n'arrive pas à imposer suffisamment de pression sur les paquets d'avant adverses, et notamment sur ce dernier match où les Anglais nous ont vraiment bousculé, ils nous ont cabossé, comme on dit dans le jargon. Ils sont arrivés avec beaucoup de vitesse et on a subi énormément d'impact sur ce match-là.
Ouais. Est-ce que la méthode Galtier arrive pas un peu à un bout de cycle finalement?
C'est la question qu'on peut se poser, parce que là les joueurs, ça va faire quand même un certain nombre de semaines qu'ils sont tous ensemble à Marcoussis. Mmh. Alors peut-être qu'il faudrait, quoi, je sais pas, hein, je suis pas à l'intérieur du groupe, donc je ne suis pas devin. Est-ce que peut-être que cette méthode-là a peut-être ses limites, hein, de toujours être ensemble et peut-être les laisser respirer, retourner un peu plus dans leur club, je sais pas. Il faut se poser des questions. Après, bon, il y a tout un staff autour, hein, avec non seulement des préparateurs physiques, mentaux, et ainsi de suite, mais il y a des psychologues aussi qui pourront peut-être faire des retours individuels avec les joueurs et savoir quels sont les manques et sur quoi il faut s'améliorer. Mais le chantier est encore très très vaste pour pouvoir prétendre à un titre de champion du monde, ça c'est sûr.
Grégory, Eric et Olivier, sur la méthode Galtier
La méthode, moi j'en parlerai pas, mais ce que je peux dire en revanche, c'est que j'en avais parlé il y a déjà quelques temps, je trouve que ça manque un peu, alors c'est encore un paradoxe, c'est que ça manque un peu de tempérament. Et à la fois, c'est le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois du tempérament pour ne rien lâcher et pour finir par remporter notamment ce crunch au bout du bout. Et puis à la fois, on se rend bien compte que dans le jeu, dans ce qui est proposé, dans l'affrontement, eh ben, ça manque peut-être un petit peu de, pas d'oniaque évidemment, parce que ce serait exagéré de dire ça, mais ça manque peut-être un peu, je vais noircir le trait, un peu peut-être de méchanceté. Alors pas de la méchanceté comme à l'ancienne, hein, c'est pas ça dont je parle, mais un Richie Mako, alors là on parle d'un des plus grands joueurs de tous les temps, bien
plus
évidemment.
Plus grand tricheur de tous les temps, tu veux dire.
Non, mais un ou deux joueurs comme ça, j'ai souvent parlé de Ramos et de son tempérament, et c'est vrai qu'il a beaucoup de tempérament, et il faudrait deux ou trois relais comme ça, dans les différentes lignes, je pense, pourrait permettre d'élever encore un tout petit peu et de permettre de limiter les manques qu'il y a pu avoir dans deux ou trois secteurs. Voilà, c'est mon avis.
Pour revenir sur Ramos, je ne sais plus quel joueur j'ai entendu au moment où il prend le ballon pour taper la dernière pénalité. Il est mort de rire, Ramos. Tous les autres se disent, mais mon Dieu, c'est 50 mètres. Hein. Et non, mais c'est bon, ça va le faire.
En fait, il y a le capitaine anglais Itoje qui vient pour le perturber. Alors que ça, généralement, en rugby, ce ne sont pas des images qu'on ne voit pas. Ça devient même inquiétant que le capitaine de l'équipe adverse vienne perturber un buteur. Bon, ça en foot on est habitué à le voir, mais en rugby je crois que c'est la première fois. Donc c'est vrai que voilà, donc il était déjà dans sa bulle et que je crois que c'est un joueur lui a amené le ballon pour qu'il botte. Il était déjà dans sa bulle et après ce sont des gestes qui sont répétés énormément de fois à l'entraînement. Après on s'est fait énormément franchir aussi au niveau technique au centre du terrain, c'est-à-dire les deux centres Moefana et Barassi. Et ben même s'ils ont énormément plaqué, ils se sont fait franchir plusieurs fois. Donc à l'époque on critiquait beaucoup Gaël Ficou parce que c'est un coffre à ballon, il transmettait pas assez de balles, mais avec Ficou c'était vraiment le patron de la défense. Donc je pense qu'il faut retrouver aussi au niveau de cette équipe un leader de la défense au niveau de la ligne de trois quarts, vraiment un patron qui va diriger cette défense et qui va lui permettre d'être beaucoup plus efficace. Et on connaît Jalibert, c'est pas un gros défenseur aussi, mais il est visé par les équipes adverses aussi, et ils envoient souvent des gros gabarits sur Jalibert, même si il défend, il plaque, mais ce sont pas des plaquages offensifs. Quoi. Donc il y a un gros chantier au niveau de cette ligne de trois quarts au niveau défensif.
Grégory,
je rejoins ce qui était dit un peu par rien que le côté un peu vicieux qui nous manque. Et notamment Ramos, il suffit pour ceux qui suivent le top 14 de le regarder à chaque match, c'est celui qui fait systématiquement dégoupiller les adversaires. En fait, on est content quand on l'a dans son équipe, mais sinon, en vrai, sur l'attitude, pour n'importe qui en face, il est insupportable, parce qu'il vient toujours se chamailler, piquer le ballon, envoyer des petites piques, tout ça, donc ça c'est sûr, mais c'est ce genre de joueurs qui font...
C'est aussi un match facteur X qui permet de faire basculer un match.
C'est ça.
Il a eu un petit accrochage d'ailleurs avec Henri Pollock.
Pollock qui a une vraie tête de joueur qu'on n'aime pas aimer. Quoi.
Le Stade de France lui a bien rendu.
C'est ce genre de joueur effectivement qui a un peu manqué. Et quand on disait le côté de l'équipe de France qui... Donc certes là on gagne le match à la toute dernière minute, mais qui manque un peu l'envie, la niaque. Je citais déjà la semaine dernière, mais la scène de Dupont qui rentre dans son non-but contre l'Écosse et qui sait plus quoi faire du ballon et qui est complètement perdu, fatigué, etc. Et c'est dans ce genre de situation justement, alors c'est le meilleur joueur du monde, même à lui il peut avoir un passage à vide, mais ça a montré un peu que quand on maîtrise pas le scénario du match, eh ben on se demande comment on va sortir de là et on n'a pas forcément les ressources.
On va retourner au top 14 et à la Coupe d'Europe, j'allais dire au tout venant, au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du top 14, de la Coupe d'Europe, avec des joueurs qui auront fait le 6 nations, qui vont retrouver leur club, qui vont retrouver l'enchaînement de matchs.
Les cadences infernales vont reprendre.
Déjà qu'ils ne se blessent pas, déjà.
C'est ça. Donc, à chaque fois, on en parle. C'est les cadences infernales du rugby. C'est-à-dire que là, le top 14 reprend dès la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça.
Donc, les internationaux, il y a un suivi médical qui est très poussé. Donc, les internationaux qui ont eu quelques blessures légères ou autres seront au repos, mais il va falloir aussi aller défendre les couleurs du club parce qu'ils sont salariés des clubs quand même, donc il faut aller défendre les couleurs du club et ça va être compliqué. Et juste à signaler aussi, c'est que les U20
ont
fait le grand chelem, donc en battant aussi les Anglais sur un score très serré avec un essai à la dernière minute. Donc bravo à la relève française.
Il y a de la relève, c'est parfait pour 2027. Vous êtes tous inquiets là autour de cette table.
Ça fait court quand même de franchir le gap de moins de 20 en senior. Mais c'est vrai que il y a vraiment un plan de succession au niveau fédéral qui est intéressant, et il y a vraiment un travail qui est fait au niveau de la dans la fédération sur les différentes équipes de France.
Ok, on va clore ce chapitre tournoi de destination, si vous le voulez bien. On va parler football avant de marquer une pause. Avec une nouvelle journée de championnat, je vous rappelle rapidement les résultats. Marseille qui s'impose 1-0 sur Auxerre, Lorient qui balance 2-1, Nice qui va s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Angers, Monaco qui bat Brest 2-0, 0-0 entre Strasbourg et le Paris FC, ça fait un point de plus pour Antoine Comboiré et ses hommes, 0-0 entre Le Havre et Lyon, Toulouse est allé l'emporter 4-3 sur la pelouse de Metz à Saint-Symphorien, Lille s'est imposé 2-1 sur Rennes, et puis le match entre Paris et Nantes a été reporté afin que les Parisiens puissent préparer au mieux leur huitième de finale retour de Ligue des Champions. Olivier.
Et puis les Nantais aussi vont pouvoir préparer leur prochain match avec le nouveau coach qui vient d'arriver.
C'est ça.
Vaïd.
Ouais.
Le
coach Vaïd. Coach Vaïd de retour.
Jeune.
Oui. Bon, sur cette journée de championnat, pas grand chose à dire.
Oui, j'ai regardé la victoire de Marseille.
Ouais.
Bon, 1-0. C'était pas terrible comme match, mais ils ont gagné 1-0. Donc c'est les 3 points qui comptent. Mm-hmm. Après, pas grand chose à dire. Hein. On parlait tout à l'heure de la victoire de Toulouse contre Metz. Bon, les pauvres Lorrains, ils sont bons derniers du championnat et à mon avis, ils vont avoir du mal à remonter. Mm-hmm. Ce qui fait que Nantes, s'ils vont rechercher Auxerre, justement. Ils ont quoi, 2-3 points de retard sur Auxerre, donc c'est ça, c'est le pari insensé du FC Nantes d'aller chercher.
Ils ont 2 points de retard.
Coach Vaïd, 2 points, points, ça se refait avec Coach Vaïd. Surtout qu'il a doublé les cadences de l'entraînement. Il est arrivé, il a doublé l'entraînement.
Ah, il les a mis au sport en fait.
Voilà, donc au passage, comme tu disais, tu faisais remarquer qu'Antoine Comboiré est arrivé au Paris FC. Ils ont commencé à remettre un petit peu de points dans la cagnotte, donc aussi. Donc finalement, les anciens Nantais sont efficaces. Voilà, après, Lyon a du mal à reprendre le chemin.
Hein. C'est pas trop un problème.
Toi, je sais que ça ne te dérange pas.
Non, ça va. Non.
Je ne suis pas spécialement supporter de Lyon, mais quand ils viennent un peu titiller l'OM, ça me fait marrer. Et puis ben, Monaco, qui s'y sont... Ouais. Son petit bonhomme de.
Il y a quand même le petit coup de mou de Lens. On les voyait bien lancer, les Lensois. Puis là,
contre Lorient. Tu disais qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais il y a à dire quand même. Parce que c'est le prétendant au titre aujourd'hui, au même titre, c'est le cas de le dire, que le Paris Saint-Germain.
Ils avaient l'occasion de reprendre la tête.
Ils avaient l'occasion de reprendre la tête. Et aujourd'hui, si Paris gagne son match contre Nantes, ce qui sera très probable, ça fera 4 points d'avance. Voilà, donc ça commencera à faire un petit peu. Et là, c'est quand même une défaite surprise. Alors, ça n'enlève rien à leur parcours, mais voilà, ils ont trébuché, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Lorient mérite sa victoire, il n'y a pas de souci, mais quand on veut prétendre au titre, ce n'est pas une défaite qu'on peut s'autoriser. Après, Monaco revient bien, on en a parlé un tout petit peu. Et puis, la surprise, c'est quand même la défaite de Rennes sur son terrain contre Lille, 2-1. Ça, c'est une petite surprise. Voilà. Après, pour le classement, ça n'a pas beaucoup bougé. Les positions sont maintenues. Et en bas, et au milieu pour la course à l'Europe, et le ventre mou, n'en parlons pas, bien sûr. Mmh. Et puis devant, un petit statu quo. Pour l'OM, pour les supporters, c'est bien parce qu'ils arrêtent de prendre des buts. Mmh. C'est quand même une très bonne chose.
Ils arrêtent de perdre aussi.
C'est difficile de gagner quand on prend des buts. Et quand on n'en prend pas, on a quand même plus de chance.
C'est laborieux.
Franchement, c'est
laborieux. Mais bon,
ils ont changé un peu. Ils étaient très spectaculaires. Aujourd'hui, ils le sont un peu moins. Mmh. Ils sont plus efficaces.
C'est ça.
Il faut qu'ils réussissent à trouver un juste milieu pour faire plaisir aux supporters marseillais et puis continuer à engranger des points. Mmh. Ça va être difficile de revenir sur Lens maintenant. Très, très compliqué. On peut toujours y croire. Il reste 8 matchs, je crois, maintenant, en théorie. Ça va être juste quand même.
Grégory, Toulouse qui va battre Metz. Bon, c'est Metz, mais ça fait du bien aux Toulousains qui...
Ils remettent la marche avant, parce que ça faisait plusieurs défaites à la suite. Il n'y avait que la parenthèse enchantée de la Coupe de France. Mais sinon, le reste, c'était un peu morose quand même. On ne va pas se le cacher. Donc là, c'est toujours sympathique. En plus, contre Metz, qui est un club ami de Toulouse. Donc... Mm-hmm. Eux, c'est plus problématique pour leur classement, mais tant mieux pour Toulouse, avec une victoire qui était à l'arraché. Tout à l'heure, on parlait de se remobiliser jusqu'à la fin. Là, pour le coup, c'était dans les dernières secondes également.
Mmh. Bruno, sur le foot, un mot ?
Non, peut-être que Toulouse comme le stade toulousain était de repos, peut-être que les rugbymen sont allés les renforcer pour.
Mais vaut mieux pas tirer au-dessus des cages, ça compte pas là.
Ça compte pas. Un petit mot de foot parce qu'il va y avoir Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui est en bonne voie de se qualifier pour le quart de finale. Olivier.
Oui, 3 buts d'avance, donc c'est toujours mieux.
On
a vu des remontadas.
Pas de club, mais.
Alors bon, pour info, il y a 3 buts, il y a 5-2, c'est sûr. Qu'ils ont gagné 5 de l'aller. Par contre, ils ont eu un pourcentage de réussite exceptionnel dans ce match. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Chelsea, c'est pas une petite équipe. Bon, les Anglais ont pas tellement brillé lors de ce premier tour de Champions, enfin de huitième de finale.
C'est assez rare pour être signalé.
Il n'y a pas une victoire.
Pas une seule victoire de la part des Anglais. Le match retour, ça va être chaud. Ils vont nous attendre. Hein. De toute façon, les Londoniens, Chelsea, ils sont comme ça. Mais... ça voilà, mais bon.
Tout dépendra de l'entame de match contre Chelsea.
Si ça démarre
proprement, s'ils ne prennent pas le bouillon tout de suite, là, il risque d'y avoir beaucoup d'ambiance, ça va être compliqué. Avec ce qu'ils ont montré et avec la capacité offensive du Paris Saint-Germain aujourd'hui, bon, ils seront forcément, parce que Chelsea va devoir attaquer, et donc va laisser beaucoup d'espace derrière. Voilà. Et comme ça va très très vite, et ils ont une attaque chirurgicale et avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Bon, je pense que même si on a déjà vu effectivement des remontadas, comme on dit, et notamment au détriment de Paris, mais je pense que ça fera, il y aura pas de souci.
Paris a évolué quand même depuis. Hein.
Ouais. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du report du match de Nantes. Je trouve enfin une décision très intelligente de la Ligue quand il y a un club français qui est dans les phases finales de Ligue des Champions, enfin de reporter le match qui est avant pour que les équipes puissent le préparer au mieux. Ça fait quand même des années qu'il y a ce débat. Mm-hmm. Donc tant mieux que ce soit enfin des décisions.
Oui, c'est vrai. Et à la fois, on peut toujours penser que
c'est
ça fausse un peu...
C'est toujours le verre à moitié plein et
toujours,
à moitié vide.
Non, mais c'est forcément une très bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Ça, ça fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, pour le championnat et l'équité du championnat, ça laisse un peu de temps à Nantes, éventuellement, pour reprendre ses esprits, s'améliorer, évidemment.
Bien sûr.
Mais entre deux matchs de Coupe d'Europe, est-ce qu'il n'est pas intéressant, peut-être, pour un club comme Nantes, de prendre le Paris Saint-Germain, qui peut... mais ça compte, ça. Mais donc, pourquoi faire une fleur à Paris? Alors, il n'y a rien contre Paris, sur mon analyse. Hein. Mais pourquoi leur faire une fleur? Et évidemment, ça sert leurs intérêts pour la Coupe d'Europe, et c'est bien. Mais pour le championnat et les autres clubs, c'est à discuter.
Peut-être que côté anglais, il va falloir changer le gardien aussi, parce que ça n'a pas été... Paris a bien profité des largesses défensives du gardien.
Le gardien parisien a fait une ou deux toiles aussi.
Il n'en prend pas 5.
Il n'en prend pas 5, c'est sûr. Ouais.
Moi, je conseille toujours aux éditeurs d'aller voir le troisième but des Parisiens au match aller. C'est juste un modèle de.
Il y a un gardien qui s'est fait sortir au bout de 17 minutes.
C'est ça, je te rappelle.
À Tottenham.
Il y a un problème chez les gardiens en première ligue en ce moment. Il y a des gros débats sur Donnarumma aussi à City.
Donnarumma aussi, oui.
Il y a des débats dans tous les sens sur les gardiens en première ligue.
Il y aura peut-être de la place, puisqu'au Bayern, ils ont perdu leurs trois gardiens. Ils n'ont plus aucun gardien. Les trois sont blessés. Donc peut-être qu'ils pourraient aller chercher des gardiens en Angleterre. Je ne sais pas.
Messieurs, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On parlera Formule 1, on parlera Jeux Paralympiques et golf, évidemment. À tout de suite.
RRB, la pub.
Bureau Vallée, mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairie. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Le Tout Info continue avec la BCI. Particuliers, professionnels, entreprises, avec la BCI, des solutions sur mesure pour construire et accompagner tous vos projets. BCI, ensemble, voir plus loin.
RRB, 16h, 19h, le Tout Info.
Et on retrouve tout de suite la suite de votre semaine formidable présentée par Lionel Sabot.
Elle est à deuxième mi-temps, en effet, avec Grégory, Bruno, Eric et Olivier qui sont avec nous. Grégory, on va parler Formule 1, deuxième Grand Prix de la saison. C'était en Chine et c'était hier. Victoire de Kimi Antonelli, l'Italien, au volant de sa Mercedes. Première victoire en carrière pour ce très jeune Italien qui s'impose devant George Russell et Lewis Hamilton. Charles Leclerc prend la quatrième place. On va noter la belle sixième place de Pierre Gasly. La huitième place d'Isaac Hadjar. Malheureusement, Esteban Ocon termine à la quatorzième place. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce Grand Prix? On s'est amusé grosso modo sur 10 tours, et puis après on s'est un peu ennuyé quand même.
C'est ça, on s'est amusé sur les premiers tours du fait de la fameuse nouveauté avec les batteries, la récupération d'énergie qui permet qu'il y ait des passes d'armes dans les premiers tours, et puis ensuite on revient à une certaine normalité, je dirais, où la meilleure voiture est devant et se met à faire cavalier seul. On a vu Antonelli ne jamais être inquiété dans ce Grand Prix. À noter, c'est un pilote qui a seulement 19 ans.
Ouais.
Il fait quand même la pole. Ouais. Il fait le meilleur, donc le plus jeune poleman de l'histoire.
Ouais.
Il fait le meilleur tour et il fait la victoire lors du Grand Prix. Donc bravo à lui. Pour les Italiens qui nous écoutent, ça leur fera plaisir. Ça faisait 20 ans qu'un pilote italien n'avait pas. Il n'était pas né parce que le dernier c'était Fisichella.
C'est ça.
Et c'était il y a 20 ans. Donc non, c'était. Bah, c'est super pour lui. On a pu voir. C'était rigolo. C'est presque comme s'il y avait trois pilotes Mercedes qui étaient sur le sur le podium vu qu'il y avait Hamilton. Donc Toto Wolff devait être particulièrement content de voir tout ça. Après, très bonne nouvelle pour Hamilton. Son premier podium avec Ferrari après une saison très 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 compliquée la saison dernière.
Il a retrouvé le sourire.
Ouais.
Il a enfin pu retrouver le sourire et notamment une bataille quand même où on s'est demandé à un moment si les deux Ferrari allaient pas être out tellement c'était viril on va dire entre les deux.
Mais apparemment d'après ce qu'ils disent les deux Hamilton et Leclerc,
mais ils se sont bien amusés.
Franchement Hamilton dit ouais c'était génial, c'était super. Leclerc pareil.
C'est pour ça qu'il pilote parce qu'être tout seul devant c'est pas amusant. Donc là tant que c'est fait. Intelligemment, c'est super pour l'équipe. Vasseur a dû moins penser ça pendant toute leur bataille. Mais... Et après, deux Français dans les points, ça c'est génial. Ocon qui est 14e, mais qui, pour l'anecdote, a pris une pénalité de 10 secondes, sinon il aurait été bien plus haut dans le classement. Et à noter également les deux Alpines qui sont dans les points, c'était pas arrivé, j'ai cherché depuis la saison 2024. Donc ça faisait quand même une éternité que c'était pas arrivé. Les deux voitures champions du monde constructeurs, les McLaren out avant même
ils
le départ.
Ils sont restés au garage.
Il y avait quelque chose qui s'est mis en défaut sur leur voiture, donc impossible de les démarrer. Verstappen qui n'arrive pas non plus. Enfin, c'était assez inattendu.
Ouais, quand on n'arrive pas à démarrer les voitures, c'est quand même vachement moins pratique quand on fait de la Formule 1.
Ici, c'est la batterie. Moi, c'est la batterie en général. Mais...
Et une nouvelle fois, la belle performance du rookie de la saison, Limbald, qui fait un bon Grand Prix après le précédent. Donc, plutôt un bon Grand Prix, même si je garde mon avis de la semaine dernière où je reste assez sceptique pour le moment. Là, c'était un vrai circuit, on va dire, pas comme le semi-urbain de Melbourne. Donc, on pouvait plus jauger les positions de chacun. Maintenant, le fait qu'il y ait eu les abandons de Verstappen et des McLaren, c'est un peu plus compliqué quand même pour savoir où se situent les uns et les autres sur le plateau. Quoi.
Prochain rendez-vous, c'est le Japon.
Prochain rendez-vous dans deux semaines au Japon.
Ouais. Et puis deux grands prix qui vont être annulés, Bahreïn et l'Arabie Saoudite
pour des raisons qu'on
voilà exactement. Ouais. Ça peut jouer ça sur la suite de la saison parce que on se sert aussi de ces grands prix pour apprendre.
Surtout sur les premiers grands prix, c'est hyper important. Là en plus c'était un week-end particulier parce qu'on reprenait les courses sprint donc les séances d'essai sont raccourcis, ce qui fait que quelque part la course sert presque d'essai pour certaines écuries. Donc là, ils vont manquer
un changement de réglementation comme
c'est ça.
C'est un changement majeur, donc ça va compliquer les choses.
Bruno, Eric, Olivier sur la F1.
Moi, je suis sceptique quant à cette nouvelle réglementation. Alors souvent, effectivement, quand ça change, on est un peu déstabilisé. C'était mieux avant, blabla. Bon, effectivement, là, les nouvelles motorisations hybrides, c'est formidable, puisque ça va dans le sens, a priori, de l'histoire. Maintenant, même si on sait que pour aller vite, il faut préserver ses pneus, et donc quelquefois rouler un petit peu moins vite, ralentir exprès pour pouvoir recharger la batterie, pour pouvoir redépasser ensuite, ça me paraît effectivement plus que surprenant, c'est un non-sens, et moi ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout de voir à quel point, par exemple, les Mercedes ont du mal au démarrage alors que les Ferrari sont si fortes. Alors oui, elles ont mieux exploité ce changement de réglementation, elles sont un petit peu plus en avance sur ces départs, et puis ensuite on voit que ça rentre dans l'ordre parce que la Mercedes est manifestement la meilleure machine, il n'y a pas de doute. Très content de voir les Ferrari aller les chercher. Mais cette réglementation, alors oui, il faut qu'elle se mette en place, il faut que tout le monde se l'approprie. Mais quand on voit ce que Verstappen en pense, alors je ne suis pas spécialement un fan pour le coup de ce
quadruple
champion
du
monde. Mais il a dit tout de suite, il a dit avant même le démarrage de la saison qu'il n'aimait pas ça. Aujourd'hui, au lieu de s'entraîner sur le simulateur, il joue à la Nintendo.
C'est ça.
Voilà, il l'a dit. Donc ça pose question quand même. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que ce qu'il dit est forcément la vérité. Et puis, à chacun d'en tirer le meilleur parti. Mais à la fois, je trouve que les voitures n'ont jamais été aussi belles. Je trouve que vraiment, c'est des bijoux, c'est magnifique à voir. Évidemment, le travail de Canal pour suivre et vivre cette compétition est juste extraordinaire. C'est absolument fabuleux. En course, il y a toujours eu des très gros écarts entre les deux, trois équipes de tête et les autres, entre les meilleurs pilotes et les autres. Donc, ça ne changera pas, ça. Mmh. Donc, on est habitué. On a quand même envie de voir un peu de combat.
Grégory.
Et pour revenir sur cette réglementation, on se disait avant l'émission, même si d'un point de vue du spectacle, de la sportivité, c'est pour l'instant perturbant, d'un point de vue purement de l'ingénierie automobile, c'est le sommet de tout ce qu'on peut imaginer. Et les constructeurs qui sont engagés en Formule 1 vont se servir de toutes les technologies qu'ils développent pour les voitures civiles ensuite. Donc il y a un enjeu derrière qui est aussi là-dessus, qui faut pas oublier quand... Nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle, mais eux, ils pensent aussi à ça. Derrière, ils vont pouvoir appliquer.
Il faut quand même qu'il y ait du spectacle.
Et pour démarrer la voiture, là, chez McLaren, ils ont trouvé un truc ou pas?
Une clé,
ça marchait bien, la manivelle, à une époque.
Ça pose quand même question. L'équipe championne du monde avec le champion du monde en titre au côté pilote, qui prend pas le départ de la deuxième course et qui est quand même très en difficulté sur la première.
C'est la nouvelle technologie.
Ça interroge. Alors,
et Piastri qui a pas pris un départ de la saison. Il s'est mis dans le mur autour de la saison de mise en grille.
Et Verstappen qui a pas rallié l'arrivée pour l'instant.
Et on peut pas douter de la capacité à Verstappen à rouler vite. On peut pas douter de la qualité des Red Bull à aller vite aussi, à être champion. Donc
Messieurs, on va aller vite. Deux sujets encore à traiter. Les Paralympiques, Olivier Deniau. La France, super.
Sixième, je voulais préciser Pierre Fermant qui ne fait pas les Paralympiques, non, parce que j'ai été questionné et lui aussi.
C'est vrai.
Donc, non, c'est l'athlétisme et c'est le sport d'été.
On le sait très fort et tellement fort. Donc,
c'est pas encore mis.
La descente. Il a mis sur son mur.
Il a mis la photo. Si tu l'as mis sur Facebook, c'est parce qu'on a eu des questions. Donc, il n'a pas fait les Paralympiques.
Sacré Pierrot.
On te salue si tu nous écoutes. Oui, la France,
il sera peut-être un jour, remarqué.
Pourquoi pas? On en a fait des stages de cohésion, ski de fond, tout ça, il est pas mal d'ailleurs. France 6e, l'objectif visé c'était la 4e place. Bon, pour être là, ils ont 4 médailles d'or. Pour être dans le top 4, il fallait 7 médailles d'or. Je signale le retour des Russes en tant que pays, et pas seulement en tant que participants. Le comité paralympique avait décidé la réintégration de la Russie, contrairement au comité olympique. Voilà, donc les Russes sont devant les Français, puisqu'ils font 8 médailles d'or. Donc c'est la Chine qui est première avec 15 médailles d'or, et les États-Unis, la Russie, l'Italie. Hein, c'était quand même chez eux, donc dans ces cas-là ils ont le home advantage avec moins de pression qu'on a pu avoir en 2024 à Paris au Stade de France, puisque bon, les Jeux d'hiver, il y a beaucoup moins de spectateurs. Et puis une équipe de France qui, bon, il y avait Arthur Bauchet qui visait 5 médailles d'or, il en a fait que deux, et il fait 2 médailles d'argent, donc c'est déjà un beau palmarès. Voilà, donc rentrer dans le top 4, c'est pas évident, et ils font une belle 6e place. Voilà.
Éric Figuère, on a 2 minutes pile poil pour parler du 5e majeur de la saison, The Player.
On va faire vite.
Et la victoire de Cameron Young,
l'américain de 28 ans qui a mis du temps, un peu comme Scottie Scheffler avant lui, à réussir à gagner, qui a gagné l'année dernière et qui aujourd'hui gagne. Celui qui n'est pas le 5e majeur, contrairement à ce que certains laissent penser, mais qui est tout simplement le plus grand tournoi hors majeur du circuit professionnel, le Player Championship, pour ne pas le nommer, un tournoi immense où tous les meilleurs sont là. Donc, grosse victoire de Cameron Young, qui se défait de Matt Fitzpatrick sur le dernier trou.
C'était pas le week-end des Anglais.
Alors on était nombreux à espérer que le Suédois Ludvig Åberg, le jeune, réussisse à gagner ce tournoi. Il était en tête après 3 tours et malheureusement, on se rend compte à quel point c'est difficile d'aller gagner ce genre de tournoi et des tournois d'ailleurs tout court. Et puisque malheureusement pour lui, comme je dis souvent, il s'est pris les pieds dans le tapis, le pauvre. Et puis Fitzpatrick a longtemps cru qu'il pourrait empocher la mise. Et puis Cameron Young avec un magnifique birdie au 17, ce fameux trou numéro 17 de Saugrass, ce trou en île qui est tout petit, mais qui est et qui fait et défait les champions. Donc il a fait un très beau birdie et s'est présenté au départ du 18. Pour les connaisseurs, il a mis une mine, comme on dit, une bombe à 340 mètres de distance. À ce moment-là de la partie, ils étaient deux, donc il y avait encore deux parties derrière, mais ils étaient deux à pouvoir l'emporter, ils étaient dans la même partie. Donc Cameron Young joue en premier puisqu'il a fait birdie au 17 et il sort un drive monumental, le plus gros drive de toute la semaine sur ce trou-là avec toute la partie gauche qui est dans l'eau. Donc c'était assez fabuleux à voir avec un coup de 90 mètres en second pour attaquer le green. Et puis l'anglais Fitzpatrick qui jouait en deuxième a un peu retenu son coup, a fini dans les pommes de pin, dans les brindilles. Et donc il a fait malheureusement un bogey et il perd le tournoi là-dessus. Malheureusement pour le camp français.
Vous aviez que deux minutes, hein,
Mathieu Pavon.
Hein.
Ouais,
j'ai deux grosses points et il prend
Mathieu
tout le
Pavon,
temps.
Malheureusement, je parle vite hein, en plus. Hein. Mathieu Pavon n'a pas réussi à passer le cut, malheureusement. Il avait réussi à se qualifier pour ce très très gros tournoi. Donc maintenant, le prochain objectif, on va passer les tournois habituels et on va attendre le mois d'avril pour le Masters, dont j'espère cette fois-ci on prendra le temps. On prendra le temps. Majeur,
oui, parce que c'est un majeur, le Masters, le Players.
C'est surtout un événement planétaire.
énorme. Merci à tous les quatre. Vos coups de cœur, vos coups de griffe pour terminer. Bruno.
Louis Biel-Biarré, bien sûr, 22 ans, 29 essais en 27 sélections d'équipe de France. Voilà, donc il affole toutes les statistiques. On ne peut pas ne pas le féliciter ce soir.
Grégory.
Un coup de cœur pour tous les joueurs calédoniens, wallisiens et futuniens qui composent le 15 de France et qui font la fierté du public français, qui font rêver tous les gamins dans les clubs sur le caillou.
Olivier.
On va dans les pays nordiques de l'Europe.
Allons-y.
Duplantis, record du monde, record du perche, 6m30 et des poussières.
130-31,
c'est ça. Et puis le club de Bodø/Glimt, qui est en 8e de finale, le norvégien.
Et qui joue très bien.
Qui était en quart de finale de l'Europa League l'an dernier. C'est un petit club. Il y a que des Norvégiens dans cette équipe. Ils sont semi-pro, pro, je ne sais pas trop, mais enfin, c'est un petit village, une petite ville de, je ne sais pas quoi, 5000 habitants.
Personne
ne les connaît. Et vous ne les connaissez pas. Bodø/Glimt.
Bodø/Glimt.
Ils ont gagné 3-0
le match. La retraite d'Alexis Pinturo. Voilà, un de nos plus grands champions de ski alpin. Voilà, on est un peu déçu qu'il n'ait pas pu faire une dernière course, puisqu'elle a été annulée. C'est vraiment dommage, mais c'est un grand et beau champion. Et quand ces beaux et grands champions prennent leur retraite, il faut en parler un petit peu.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine formidable dans un instant. C'est l'info, Léana Colombo pour le journal.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.